les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Curieuses et curieux des ondes, amoureuses et amoureux de la radio, bonjour. Vous êtes bien dans les ondes buissonnières, le programme des pépites sonores de la rédaction de Radio Saint-Ferréol. Aujourd'hui, nous laissons la parole à Sophie Bizet, une animatrice conteuse ayant une émission sur Radio Saint-Ferréol. Sophie nous présente un texte qu'elle a écrit en 2015 et qui fera écho à la triste actualité géopolitique. Je la cite. En 2015, j'ai créé un spectacle de récits de vie, du nom de Si Vaillante, où j'ai raconté le destin de mes héroïnes féminines préférées, à savoir l'aviatrice Amelia Earhart, première femme à avoir traversé l'Atlantique Nord en avion, la plasticienne Nikki de Saint-Phal, créatrice du Jardin des Tarots et des Nanas, et la journaliste Anna Politkovskaya. Anna était une journaliste russe au courage indomptable. Elle a combattu inlassablement pour la vérité et la justice, notamment durant les guerres tchétchènes des années 2000. Ce combat, elle l'a payé de sa vie. Dans le contexte d'aujourd'hui, ses articles, ses livres et son histoire me semblent d'une bouleversante actualité. La vie d'Anna Politkovskaya, par Sophie Bizet, c'est tout de suite dans les ondes buissonnières. Bonne écoute.
Anna Politkovskaya. Grozny, la ville martyre, la ville ruinée, aujourd'hui a des airs de Dubaï, avec des appartements en verre et en béton, des centres commerciaux rutilants. Dans ces appartements luxueux, personne n'habite. Ils sont beaucoup trop chers pour une population dont 40% est au chômage. L'avenue principale a été rebaptisée avenue Poutine. Elle débouche dans l'avenue Kadyrov, le président mis en place par Poutine et qui marche avec lui main dans la main. Anniversaire de ces deux-là, célébré en grande pompe médiatique avec danse et chants folkloriques et présence obligatoire. Leur portrait s'étale en grand sur les murs de la ville, partout. Aujourd'hui, le peuple tchétchène, jadis si fier, courbe la tête et a peur de son ombre. Aujourd'hui, parler de la guerre, c'est risquer la mort. Une guerre où un cinquième de la population a péri. Alors, se taire et oublier. Se taire. Toi, Anna, tu n'as jamais su, et tu en es morte. Anna, on n'est pas complètement mort tant qu'on n'est pas oublié. Je ne veux pas qu'on t'oublie. Tu nais à New York, le 30 août 1958. Ton père travaille à la délégation soviétique à l'ONU. Tes parents te transmettent le goût de la littérature et des arts. Un peu plus tard, une fois la famille retournée en URSS, ton père ramène de l'étranger des livres interdits. Dans la littérature, tu puises tes valeurs. Tu diras, après avoir lu Tolstoï, « Je ne peux pas renoncer à moi-même, ni à la recherche de la vérité. » Tu es bon élève et très vite, tu as le sens de la justice et tu n'hésites pas à défendre tes camarades si tu estimes qu'ils sont injustement punis. Tu affrontes même le terrible directeur. Plus tard, tu t'inscris en journalisme à l'université. Tu es une belle fille, une beauté du 19e siècle, avec de longues jambes et des cheveux blonds. À l'université de journalisme, tu rencontres Alexandre Politkovski. Très vite, entre vous, un amour brûlant. Le mariage est célébré au pain noir et à la vodka dans un immeuble khrouchtchevien. Tu prends le nom d'Anna Politkovskaya, un nom que tu porteras jusqu'à ta mort, même après ta séparation d'avec Alexandre. Tu ne prendras jamais de pseudonyme. Tu diras, on ne reste pas dans l'anonymat quand on a raison. Vous avez deux enfants, la vie n'est pas facile. Tu travailles comme journaliste, tes articles sont essentiellement consacrés à des sujets sociaux. En 1991, Boris Eltsine remplace Mikhail Gorbatchev. Fini la perestroïka et le vent de liberté qui avait pu souffler sur la presse. Fini l'URSS, c'est maintenant la Fédération de Russie. Le triomphe des profiteurs des fortunes immenses amassées en quelques jours, la première guerre de Tchétchénie se conclut douloureusement par une victoire tchétchène, un accord de paix et des élections démocratiques en Tchétchénie. Toi, Anna, tu commences à travailler pour le bi-hebdomadaire Novaya Gazeta. Un relativement inconnu, Vladimir Poutine, ancien du KGB, devient premier ministre de Boris Eltsine. En 1999, toi, Anna, tu as 41 ans. Eltsine cède les pleins pouvoirs à Poutine. Et celui-ci relance la guerre en Tchétchénie. Une république qui doit servir d'exemple pour toutes les autres qui auraient des velléités d'indépendance. Mais il ne fait pas la guerre, non. Il mène une opération antiterroriste. Et il promet d'aller buter les terroristes tchétchènes jusque dans les chiottes. Les médias approuvent. Enfin, un homme à poigne. L'Europe se tait. L'armée russe marche sur Grozny, écrasée sous les bombes. Novaya Gazeta, on te mandate pour couvrir cette seconde guerre de Tchétchénie. Toi, Anna, tu n'y es jamais allée en Tchétchénie. Tu n'as rien écrit sur ce pays. Mais tu acceptes et tu pars pour Grozny. Et durant les 7 années qui te restent à vivre, tu vas te rendre plus de 70 fois là-bas. La Tchétchénie est une zone où les uns ont tous les droits et les uns pour qui tuer, c'est comme... Donner une claque à un gamin qui aurait volé une pomme. Mais les autres doivent se résigner. Sous ta plume, Novaya Gazeta devient le seul journal à se faire l'écho des drames qui se passent là-bas. Tu essayes inlassablement d'aider les victimes. Dès que tu as un pied en Tchétchénie, le FSB, l'ancien KGB, est sur tes talons. Malgré cela, tu réussis à aider les réfugiés. Tu transportes de l'argent, tu achètes des médicaments. Tu réussis à faire conduire des blessés à l'hôpital. Un de tes amis dira que tu as fait plus pour la Tchétchénie que n'importe quelle ONG internationale. Tu t'élèves contre la barbarie. La Zatchiska, ce sont les troupes de soldats ivres qui pénètrent dans les maisons, qui volent les tapis, les téléviseurs, les bijoux, qui embarquent des jeunes gens qui ne reviendront jamais, dont même les corps ne seront pas rendus, ou alors en payant de fortes sommes d'argent. Ils violent, ils tuent les gamines, les mères, les grands-mères. Et puis ils rentrent chez eux, avec ce passé de tueurs et de tortionnaires, sans aucun suivi psychologique. Le président parle de renaissance de l'armée russe. Toi, tu parles de déchéance et de déshonneur. Aïchat, seconde guerre tchétchène. 2 heures du matin. De jeunes soldats viennent réclamer de la bière à Aïchat, une femme de 62 ans et son mari Abbas, un vieil homme de 86 ans. Elle répond qu'ils n'en ont pas, leur loi leur interdit. Les soldats s'en vont, mais une heure plus tard ils reviennent, ils fouillent la maison. Aïchat a peur pour sa belle-fille et ses petits-enfants qui dorment dans la pièce à côté. Elle demande aux soldats de ne pas faire de bruit. Ah, pas de bruit, hein? Un des soldats entraîne Abbas, le mari, dans la cour. Et tout doucement, il lui plante son couteau dans le ventre, sans faire de bruit. Puis il rentre. Il fait asseoir Aïchat sur un lit face à lui et elle lui tire dessus, à bout portant. Ensuite, les soldats ferment la porte et s'en vont. Aïchat n'est pas morte. Pour l'emmener à l'hôpital, ses proches ont dû attendre le lendemain matin. Couvre-feu, très strict, à Grozny. 2 semaines après, toi, Anna, tu as retrouvé et interrogé l'autre soldat, en présence d'un de ses supérieurs. Celui qui n'avait pas tiré, qui n'avait pas enfoncé son couteau dans le corps d'un vieux de 86 ans, mais qui était parti, lui aussi, sans faire de bruit. Il a une allure parfaitement normale, les yeux peut-être un peu vides à cause de l'herbe. Chose banale en Tchétchénie, où il est tellement facile d'échanger des cartouches contre des drogues sans se demander à quoi elles vont servir. Est-ce que tu as vu ce que ton camarade a fait à cette grand-mère?
Ouais.
Tu sais pourquoi? Ils ne nous ont pas donné de bière.
Ouais, ça te paraît normal?
Un jeune homme hausse les épaules.
Et si on avait fait cela à ta grand-mère?
Pour une bière?
Ah, la mienne en aurait donné aux soldats.
Et s'il n'en avait pas?
L'officier qui assiste à la conversation vient au secours du soldat. « Oh, ça suffit maintenant. Eh, tu peux disposer, mon gars. Et vous, pourquoi vous le tourmentez? Pour qu'il se souvienne ?»«
Ouais, précisément pour cela. Pour qu'il se souvienne. »
La vie quotidienne d'une journaliste en Tchétchénie. L'eau. L'eau est très précieuse. Pas à cause de son prix. Ici, l'eau n'a pas de prix. Car il n'y en a pas. Pratiquement pas. Les réserves naturelles, les lacs, les étangs, on y a jeté tant de cadavres qu'il ne faut même pas y penser. Alors on ne se lave pas, même si parfois le désir impérieux d'être propre l'emporterait sur toutes les émotions. Un jour d'été, Anna, tu es tellement sale que tu te diriges d'un pas résolu vers la rivière Sonja, dans un faubourg de Grozny. À l'aube, tout semble tellement frais, alors tu te penches, tu recueilles un peu d'eau au creux de tes mains. Mais tes mains s'arrêtent avant d'atteindre ton visage. Il n'y a pas une heure, une minute, une seconde sans que cette eau lave des cadavres. Non, tu ne peux pas te laver avec ça. Tu veux vivre. La nourriture, là-bas, manger, c'est comme un don du ciel. On est comme un oiseau, on ne sait jamais à l'avance ce qu'on mangera, ni quand, ni comment. Avant, tu ne comprenais pas comment les médecins légistes pouvaient déjeuner à côté d'une table de dissection. Et maintenant, ce n'est pas le cas, tu es capable de boire du thé à côté d'un cadavre, convaincu qu'il te pardonnera. Il sait parfaitement que si tu rates cette occasion de te nourrir, il ne s'en présentera peut-être pas d'autre avant très longtemps. Et pour dormir, l'idéal est de dormir chez des gens sûrs, qui n'amèneront pas dans la maison des militaires pour une arrestation, ou des bandits pour un enlèvement. Une journaliste en Tchétchénie, c'est une personne qui manque de sommeil, qui est affamée, sale et effrayée à mort, comme n'importe quel habitant de Tchétchénie. Ton arrestation. Par un bel automne ensoleillé dans une célèbre ville d'Europe, tu te trouves au café avec un ami à tes côtés. Pour illustrer une blague qu'il raconte, il fait mine de te donner un coup de poing sur la pommette. Et toi, tu as un mouvement de recul. Et il y a un silence embarrassé, puis il te demande « Est-ce que tu as été battu ?» Une femme a du mal à reconnaître une chose pareille. D'autant plus quand ceux qui t'ont battu auraient pu être tes fils. Tu as été battu au début de la guerre. Et plus tard, lors d'une arrestation ou un simulacre d'exécution, on t'a appuyé le dos contre un lance-roquettes. Et plus tard, tu as été battu. Alors que tu faisais ton travail de journaliste, t'essayais d'éclaircir les circonstances du meurtre d'un habitant de Grozny. Tu ne peux pas rentrer à Moscou et déclarer publiquement qu'on t'a battu. C'est toi qu'on blâmerait, on te dirait « Et pourquoi est-ce que vous allez là-bas? Vous n'avez qu'à rester à la maison, vous l'avez bien cherché. » Alors ce jour-là, au café, tu as répondu à ton ami « Ouais, j'ai été battu, mais je ne veux pas de compassion. C'est un détail de ma biographie qui n'appartient qu'à moi. » Nord-Ost, 25 octobre 2002. Un commando prend en otage 800 personnes au théâtre de la Dubrovka à Moscou. Les preneurs d'otages réclament Anna Politkovskaya pour mener les négociations par son intermédiaire. Naturellement, tu acceptes. Tu te retrouves face au chef du commando. Bakar a 29 ans. Il a fait les deux guerres de Tchétchénie. Pendant 10 ans, il n'a connu que la forêt et son fusil mitrailleur qu'il ne lâche jamais, même pour dormir. Tu demandes de laisser partir les adolescents. Ce sont des enfants. Des enfants? Il n'y a pas d'enfants. Lors des Hatchiski, vous prenez nos enfants à partir de 12 ans. Alors nous, nous gardons les vôtres. Pour vous venger? Non, pour que vous compreniez.
Le commando exige le retrait immédiat des troupes russes de Tchétchénie. Tu demandes à parler aux otages, tu échanges quelques mots avec deux jeunes femmes en état de choc et terrorisées. Tu conviens avec Bakar de pouvoir porter de l'eau minérale et des jus de fruits aux otages. Il refuse que tu apportes de la nourriture aux enfants. Tu sors dans la rue, il fait très froid. Quelques heures plus tard, c'est l'assaut des forces spéciales. Après diffusion massive de gaz toxiques, 130 personnes trouvent la mort et 40 preneurs d'otages. Tu vois des membres des forces spéciales tirer à bout portant sur un homme à terre, comme s'il voulait éliminer un témoin gênant. Un des terroristes a quitté le théâtre avant l'assaut. Plus tard, tu le retrouves et tu publies un article. Cet homme était à la solde des services secrets russes, un agent provocateur d'une opération qui a mal tourné. Toi, Anna, tu avais honte de n'avoir pas pu sauver ces gens. Tu t'accusais de ne pas avoir trouvé les bons mots, de ne pas avoir su convaincre les officiers pour les empêcher de prendre cette décision terrible d'utiliser les gaz. Tu restais persuadé que l'on aurait pu négocier, mais il aurait fallu du temps. Vaka Kosuyev était un leader de Tovzeni, un grand village de montagne de plus de 3500 habitants. Un grand montagnard dont les traits semblaient avoir été taillés à la hache. Ancien professeur de lettres de l'école du coin, il était commandant adjoint d'un détachement d'autodéfense du village qu'il protégeait à la fois des combattants tchétchènes et des Russes. Tu as rencontré Vaka. Vous êtes assis devant sa pauvre maison à Tovzeni. Tu étais venu chez lui sans te cacher dans la journée. Vaka n'avait peur de personne. Les actions des militaires sont honteuses, t'a-t-il dit. Moi, je rassemble des informations et il faut que vous les publiez. Au cours des Hachiski, plus de 150 habitants du village ont été arrêtés et emmenés vers une destination inconnue. Parmi eux, notre mollah de 90 ans, son adjoint et quelques autres anciens. Et tous les hommes ont dû payer une rançon pour pouvoir rentrer chez eux. Les unités qui sont stationnées à côté du village s'approprient tous nos biens, notre bétail. La vie devient impossible. Il faut que vous publiez ça. Il faut que les mères russes sachent ce que font leurs fils. Vous vous êtes séparés sur le pas de sa porte et il y avait un petit rassemblement de gens qui se pressaient là pour voir qui était le visiteur de Vaka. Peu de temps après, un blindé s'est arrêté devant la maison. Vaka est sorti pour saluer les militaires et ils ont demandé « C'est toi, Vaka Kosuyev ?» Il a répondu « Oui ». Les militaires ont tiré sur lui à bout portant et ils sont repartis. Il a été abattu parce qu'il a accepté de te rencontrer et que tu as publié ce qu'il t'avait dit. Les fédéraux fermaient les yeux sur ses activités tant que l'information ne sortait pas de Tchétchénie. Et la femme de Vaka a été épargnée. Mais parfois, il est arrivé qu'on fusille non seulement la personne qui t'avait parlé, mais aussi des membres de sa famille, comme le fils de Marka, un garçon de 15 ans tué avec sa mère. Tu te demandais tous les jours comment faire avec ça. Et l'image du fils de Marka te revenait tous les jours. Beslan, Ossétie du Nord, 1er septembre 2004. Un groupe d'hommes et de femmes armés, tchétchènes, mais aussi venus d'ailleurs, et qui exige l'indépendance de la Tchétchénie, le retrait des troupes russes de son territoire prend en otage des centaines d'écoliers et de familles et les instituteurs qui sont tous rassemblés pour la fête traditionnelle qui célèbre la rentrée des classes. Les otages sont détenus pendant 3 jours dans un gymnase sans nourriture et sans eau. Le 3 septembre, les terroristes donnent aux services médicaux l'autorisation de récupérer les corps des personnes tuées au début de l'assaut. Au moment où les médecins et les infirmiers, accompagnés de plusieurs hommes du FSB, approchent du préau de l'école, 2 explosions d'origine inconnue se produisent et là, ça va déclencher le signal de la bataille entre les forces d'intervention russes et les terroristes. Le bilan est de plus de 300 civils tués, 11 soldats et 31 preneurs d'otages. Toi, Anna, le 1er septembre, le jour de la prise d'otages, tu veux te rendre à Beslan. Tu veux témoigner de ce qui se passe et peut-être mener des négociations avec les bolcheviks. Après plusieurs heures d'attente à l'aéroport de Moscou, Un inconnu t'aborde. Il y a un avion qui va partir pour Rostov, dans quelques minutes. Tu penses que de Rostov, tu pourras rejoindre Beslan, par la route. Une fois à bord, tu avales une gorgée de thé, et là, tout de suite, tu te sens très mal. Tu as juste le temps d'attraper ton téléphone. On m'a empoisonné. Et tu sombres dans le coma. À Rostov, les médecins vont te sauver la vie. Tu passes la journée à l'hôpital. Plus tard, tu ne pourras pas prouver l'empoisonnement. Les résultats des analyses ont été détruits par mégarde. Pour toi, les coupables sont les services secrets qui voulaient à tout prix t'empêcher de te rendre à Beslan. Après Beslan, tu as changé. Tu as peur pour tes enfants. Et pour la première fois, tu reconnais avoir peur pour toi. Le poison est dans ton corps. Ah, ils ont failli gagner. Ils ont réussi à te faire peur. Tu as toujours l'impression de ne pas en faire assez. Et pourtant, tu es la seule en Russie à donner voix aux mères des soldats, aux civils tchétchènes, à tous ces gens oubliés. 7 octobre 2006. Anna, tu te savais en danger, tu avais reçu des menaces de mort. Plusieurs pays européens t'avaient proposé de t'accueillir, mais tu as choisi de rester en Russie pour faire ton travail, enquêter sur les tortures pratiquées par une unité de Kadyrov. Cet article, tu n'en verras pas la publication. Ce sont tes collègues de Novaya Gazeta qui le termineront à ta place. Le 7 octobre 2006, une voisine découvre ton corps dans la cage d'escalier de ton immeuble, rue Lesnaya, à Moscou. Non loin de là, un pistolet et 4 douilles. Tu es la 21e journaliste assassinée en Russie depuis l'élection de Vladimir Poutine en juin 2000. Tu avais 48 ans. Tu savais depuis quelques jours que tu allais être bientôt grand-mère. Tu disais, Anna, les mots peuvent sauver des vies. Les tiens n'ont pas sauvé ta vie, mais ils t'ont rendu immortelle.